midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, ici au Salon de l'Agriculture. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Toute la semaine, nous sommes avec évidemment nos micros ici sur le stand France Terre de Lait. Vous pouvez nous rejoindre. L'occasion de regarder de très près les solutions pour mieux rémunérer nos agriculteurs et vous allez voir qu'il y en a. Elle existe depuis 1743. Elle a connu, c'est vrai, plusieurs vies, mais avec toujours un seul et même credo, celui des graines. Villemorin est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis une plateforme pour rapprocher le consommateur et le vigneron, c'est l'idée des grappes et c'est la solution pour savoir qui est derrière le vin qu'on boit. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend. On est là, installé au Salon de l'Agriculture. Et vous avez évidemment, Marlène, la parole, comme chaque jour.
Et oui, hashtag Europe 1 sur Twitter, sur les réseaux sociaux, pour réagir et même poser des questions à vos invités. Et puis le 39-21, vous l'avez dit, vous nous laissez un petit message. Et bien sûr, on vous rappelle, 50 centimes la minute.
Et on va s'intéresser aujourd'hui à la rémunération des agriculteurs. Vous le savez, le sujet est sensible et aujourd'hui, en 2019, même s'il a augmenté de 10,8% en moyenne, eh bien il reste, c'est vrai, relativement bas, jugé plutôt 30 000 euros avant le paiement des cotisations. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière. Alors, eh bien, des initiatives sont nées pour que davantage d'argent finisse tout simplement dans la poche des agriculteurs, pour qu'on leur paye aussi le juste prix, bref, pour qu'ils puissent vivre décemment de leur métier. Pour accueillir nos invités ici au Salon de l'Agriculture à mes côtés, comme chaque jour, Benjamin Lévesque, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Gilles Vanderpotten, fondateur de Reporters d'Espoir et de la France des Solutions. Bonjour Gilles.
Bonjour Raphaël.
Fils d'agriculteur.
Tout à fait. Et pendant 20 ans, mes parents ont fait de
l'agriculture. Donc il connaît bien le sujet.
Oui.
Des solutions, justement, on va en parler, hein, comme vous le faites tout le temps,
oui.
Gilles. Des solutions avec Agriconomie qui a décidé d'en créer une. Bonjour Paulin Pascot. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de cette première place de marché pour les agriculteurs. Vous dites à ceux qui ne vous connaissent pas, finalement, on est un peu l'Amazon des agriculteurs, c'est ça ?
On est une plateforme en ligne qui aide les agriculteurs à mieux acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation.
Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je trouve sur cette plateforme ?
En quelques clics, l'agriculteur peut acheter ses engrais, ses semences, ses pièces détachées, la nutrition pour ses animaux et se faire livrer directement chez lui. Donc on a créé ça avec deux copains, fils d'agriculteurs, en 2014. Et on a aujourd'hui plus de 50% des agriculteurs français qui utilisent la plateforme et 10% des agriculteurs français comme clients Agriconomie. Et là, on est parti voir nos clients le mois dernier. On en a vu 200. Et on leur a posé une question très simple.
Oui.
Pourquoi vous venez acheter sur Agriconomie ? Première réponse, c'est qu'on leur fait économiser du temps. C'est 96 heures en moyenne. Et ensuite, c'est qu'on leur fait économiser de l'argent. On a fait économiser 5 000 euros en moyenne à nos agriculteurs sur leurs appros à l'année.
Mais alors, attendez, racontez-moi, comment est venue l'idée d'un outil qui puisse justement permettre aux agriculteurs de faire des économies ? Il y a forcément dans l'aventure des fils d'agriculteurs, je suppose, ou des agriculteurs.
Évidemment. Mon associé Clément est 5e génération d'agriculteurs. Mon associé Dean est fils de viticulteur. Et mon grand-père a été ouvrier agricole une grande partie de sa vie. Donc on connaît très bien le secteur.
Du côté justement, Benjamin, des chiffres, on a quelques données sur la rémunération aujourd'hui des agriculteurs.
Alors du côté de la filière des céréales, justement, on peut faire des économies. Hein. L'une des solutions, c'est de changer tout ce qui est la logistique, de plus utiliser les camions pour transporter son grain. Le carburant coûte cher et puis il faut payer les chauffeurs. Eh bien, on économise en utilisant plutôt le train ou le bateau et on est donc plus compétitif. Et ça, selon les professionnels du secteur, ça permet de gagner 10% chaque année et puis c'est meilleur pour la planète.
Oui, alors vous entendez sûrement, hein, derrière moi, il y a quelqu'un, on est en direct, on est au Salon de l'Agriculture, donc il se passe plein de choses en même temps. Du coup, vous avez peut-être aussi une deuxième voix qui arrive derrière moi, mais ça n'est pas grave, on va quand même continuer à débattre. Paulin Pascot, vous avez commencé par une gamme de produits, laquelle, dans la Marne, je crois.
Oui, exactement, vous êtes bien renseigné.
Bah, je regarde, je travaille, vous savez.
Donc on a lancé la plateforme en 2014 uniquement dans la Marne, avec un seul produit, pour vraiment tester le marché, voir si les agriculteurs étaient prêts à acheter en ligne, des montants assez conséquents, et si ça allait créer de la valeur pour eux. Et ça a tout de suite décollé. On a bon nombre de clients qui sont venus nous voir, qui ont commandé via la plateforme, et là on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc on a ouvert 2-3 départements supplémentaires. Et en juin 2014, on a ouvert toute la France. Et puis depuis, on travaille très fort pour ouvrir des catégories de produits et pouvoir couvrir 100% des approvisionnements des agriculteurs.
Que dit notre coach, Gilles Van Der Potten ?
Il s'interroge sur la transparence que vous avez introduite dans le marché. Est-ce qu'il y avait un manque de transparence ? Et le fait de créer une plateforme sur laquelle on peut consulter tous les prix, j'ai regardé tout à l'heure, ça fait pression sur les fournisseurs.
C'est le mot le plus important pour nous, la transparence. Et c'est pour ça qu'on a créé Agriconomie. C'était pour permettre aux agriculteurs de venir voir les prix des produits et de savoir combien ça allait leur coûter livrer chez eux. C'est vraiment le mot le plus important. On a apporté une transparence dans un marché qui était parfois un peu opaque. Et aujourd'hui, on a comme 50% des agriculteurs qui viennent chez nous pour comparer des prix, lire du contenu technique, et on est devenu un market maker, une référence pour eux sur leurs appros.
Donc quand vous faites par exemple des achats de fourrage pour le bétail, si on passe par Agriconomie, c'est moins cher parce que, si je résume, les volumes sont plus importants.
On n'est pas tout le temps les moins chers. L'idée, c'est pas tout le temps d'être le moins cher, c'est d'aller optimiser tout ce qu'on peut optimiser. C'est-à-dire qu'on va trouver les bons fournisseurs, on va créer des algorithmes qui vont aller optimiser la logistique. Et tout ça, mis bout à bout, permet très souvent d'avoir des prix efficaces et justes pour les agriculteurs.
Vous dites aujourd'hui, ceux qui utilisent Agriconomie, pour eux, c'est une économie qui peut se chiffrer en milliers d'euros, 5 000 euros par an en moyenne, c'est ça ?
5 000 euros en moyenne.
Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui viennent sur la plateforme, je suppose ?
On avait, il y a 4 ans et demi, 5 clients qui, étaient sur, qui étaient nos cousins et nos oncles. Et
ça commence toujours comme ça, voilà. Hein, par la famille.
Aujourd'hui, on a 25 000 clients à travers la France.
Un agriculteur sur deux, c'est ça, qui l'utilise en moyenne ?
Utiliser, donc c'est... Un agriculteur sur deux qui vient sur la plateforme checker des prix, se renseigner, lire du contenu, échanger avec nos experts. Et on a 10% des agriculteurs français, 25 000 clients, qui ont déjà passé commande sur la plateforme. Donc on est passé de quelques clients à 10% de la population agricole française.
Et vous êtes passé aussi à 80 collaborateurs et à un développement en Allemagne, en Italie, en Espagne depuis cette année.
Exactement. On essaye aujourd'hui de servir également les clients, nos clients agriculteurs en Italie, en Espagne et en Allemagne.
Et puis, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous embauchez. 20 postes qui sont à pourvoir, c'est important, parce que c'est aussi ça, la France qui bouge, c'est de montrer que le secteur agricole, il y a du travail.
Il y a du travail, ça bouge et on a besoin de forces vives et de talents pour continuer à créer de la valeur pour nos agriculteurs. Donc, si vous écoutez Europe 1 et que vous cherchez un boulot dans une super boîte, vous tapez agriconomie.com et vous verrez, on a 20 postes ouverts.
On reste ensemble, on continue à parler justement de rémunération des agriculteurs aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vendre au bon moment pour ne pas perdre d'argent, c'est tout l'enjeu pour les agriculteurs. Une start-up a inventé l'outil qui les aide. Elle s'appelle Perfarmer. A tout de suite.
Comment mieux rémunérer nos agriculteurs et les aider à faire des économies ? On en parle aujourd'hui jusqu'à 14h dans La France Bouge avec vous, Raphaël Duchemin, en direct du Salon de l'Agriculture. Avec le hashtag Europe 1 sur Twitter, on peut bien sûr réagir, publier un commentaire. D'ailleurs, dites-nous si vous utilisez les plateformes Agriconomie ou Perfarmer et pourquoi. Puis vous pouvez aussi nous en parler au 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Oui, c'est une toute nouvelle application qu'on va effectivement, Marlène, découvrir ensemble et qui devrait logiquement faciliter la vie de pas mal d'exploitants. Cette appli, elle est lancée par Perfarmer. Bonjour Edgar Chaput.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez fondé Perfarmer en 2016. Vous étiez au départ, chez Google et vous avez eu envie de mettre votre connaissance de la technologie au service des agriculteurs. Pour quelles raisons ?
Déjà parce qu'aujourd'hui en agriculture, il y a des défis considérables à relever. Il va falloir nourrir près de 10 milliards de personnes avec moins de ressources. Et la technologie, c'est un des éléments de réponse à ce défi. Donc j'avais envie de faire des choses qui sont utiles aux gens. Et les agriculteurs ont besoin de meilleures technologies. Et concrètement, on a essayé de réunir deux mondes qui ne se parlent pas, celui de la technologie et celui de l'agriculture. Puisque je suis associé à Michel Brousse, qui est lui-même agriculteur dans le Gers.
Alors, votre logiciel, vous ne l'avez effectivement pas élaboré seul, puisqu'il y a un agriculteur qui a travaillé longtemps sur, vous venez de le citer, sur cette idée-là, mais qui n'a pas réussi à la mettre en œuvre. Vous arrivez avec finalement les bons outils et ensemble, vous arrivez à créer l'outil idéal.
Oui, en fait, il faut arriver à réunir justement des compétences. L'agriculture, c'est un monde qui est très compliqué. L'agriculteur, c'est un métier avec une dizaine de facettes. Et Michel a 66 ans, une bonne connaissance de ces problématiques-là. Et du coup, il a pu nous transmettre les besoins réels de l'agriculteur. Donc nous, notre boulot, je dis nous, puisque je suis également associé à des talents du web, c'est d'essayer de comprendre ces besoins-là et puis de les rentrer simplement dans un smartphone pour aider l'agriculteur justement à vendre ses récoltes au bon prix.
Alors l'idée, c'est effectivement de permettre aux agriculteurs de se garantir une rémunération juste, hein, on en parlait, malgré notamment l'instabilité du marché. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites pour vous savoir comment le marché va réagir ?
Ben très simplement, on ne sait pas. Donc il n'y a pas de magie en fait dans les marchés. C'est impossible de prédire l'évolution des cours.
C'est des chiffres. Et des calculs.
Et très concrètement, le cours du blé change toutes les secondes. Donc depuis qu'on discute, il a peut-être gagné 2 euros, peut-être perdu 5, on n'en sait rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'agriculteur est capable de connaître sa ferme, de savoir quelles sont ses perspectives de développement, quel est son profil de risque. Et c'est sur ces éléments-là qu'on va l'aider. Concrètement, Perfarmer, du coup, c'est la première application mobile qui va aider les agriculteurs à vendre leur récolte au bon prix, et c'est leur assistant de vente. On va d'abord définir ce qu'on appelle un prix objectif, c'est le prix auquel je souhaite vendre ma tonne de blé ou de maïs. Pour ça, on a défini un simulateur de risque qui les aide à voir si ce prix a été atteint ou pas au cours des 5 dernières années. Et dès que le cours passe au-dessus de ce prix objectif, l'agriculteur reçoit un SMS et peut vendre pour sécuriser sa rémunération.
Une question de notre coach.
Oui, je me demandais si votre solution était adaptée aux petits agriculteurs. Moi, je me souviens de mes voisins et de mes parents. Ils n'avaient pas de silo pour stocker. Donc, moi, je voyais la récolte, elle était aussitôt embarquée dans des camions pour la coopérative ou autre acheteur. On ne pouvait pas stocker. Là, votre solution, elle permet d'attendre le meilleur cours attendre le meilleur moment pour vendre. Donc, elle s'adresse plutôt à certaines tailles d'exploitation.
Alors, c'est une bonne question. La taille de l'exploitation moyenne en France, c'est 61 hectares. Michel est juste en dessous, à 60, et il n'est pas stockeur. Donc, pour expliquer aux auditeurs, quand on récolte du blé, on peut le vendre plus tard, mais il faut effectivement avoir des cellules pour stocker la marchandise. Et si on n'a pas les cellules chez soi, on peut les stocker à la coopérative ou chez le négoce. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Pour être très concret, à tous les agriculteurs qui souhaitent vendre leur récolte au bon prix, puisqu'ils vont pouvoir stocker la marchandise à la coopérative ou dans leur négoce et vendre avant ou après la récolte en fonction du cours des récoltes.
Edgar, vous dites, on a des exemples de producteurs qui disent « Moi, j'ai perdu entre 9 et 10 000 euros en quelques minutes parce que j'ai vendu trop tard. »
En fait, c'est tous les agriculteurs ont au moins
Mais certains une fois témoignent, dans leur carrière, on les voit effectivement sur votre site, dire « Voilà, c'est concret, c'est de l'argent perdu, envolé en quelques secondes. »
Il faut, pour être très concret, une ferme de 100 hectares sur l'année 2018, c'est des écarts de chiffre d'affaires de plus de 20 000 euros en fonction du moment où on décide de vendre. Donc le stress et la solitude liés à la commercialisation, tout agriculteur la connaît. Et donc on a une volatilité telle que si on prend la décision de vendre un peu trop tôt ou un peu trop tard, c'est souvent la rémunération de l'agriculteur qui est en jeu.
Benjamin, il existe d'autres start-up qui aident les agriculteurs à mieux se rémunérer un peu sur le même modèle ?
Oui, exactement. Avec une jeune entreprise basée à Chartres, son nom c'est Comparateur Agricole. Alors c'est un site internet en fait où on va vendre directement en ligne sa production. Il n'y a plus d'intermédiaire puisque bien vendre son orge ou son colza, eh bien ça ne veut pas dire forcément le vendre à tel client ou un autre, mais plutôt le vendre au bon moment. Et justement, cette plateforme, elle vous informe chaque jour quel est le meilleur prix pour vendre ses céréales. 5 000 cultivateurs l'utilisent aujourd'hui. Et en moyenne, ça peut vous faire gagner entre 7 et 8 000 euros à l'année en plus.
Oui, j'imagine que c'est à peu près le même type de technique. Edgar, vous leur donnez finalement une capacité d'anticipation. Quelle est la technique ? Parce que si tout le monde peut télécharger votre appli, comment est-ce que vous allez faire ? Quelles incidences ça va avoir ? Parce que ceux qui font finalement les prix vont le savoir aussi. Donc ouais, c'est un peu le chat qui se mord la queue.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché mondial. Donc en fait, la réflexion n'est pas au niveau du Gers, de la France.
Bien sûr.
Aujourd'hui, les gros producteurs sont les Russes, sont les Américains. Donc la problématique, elle n'est pas franco-française. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Donc avant de retourner le marché, on a encore un peu de
non,
de temps.
Mais si on s'approprie ce type de technologie, ça peut poser un problème.
Et j'en viens en deuxième point. Il y a beaucoup d'agriculteurs, en fait la majorité aujourd'hui des agriculteurs, qui n'ont pas choisi de s'approprier ce problème. Pour être très concret, la plupart des agriculteurs ont choisi de déléguer leur commercialisation, et donc dans une certaine façon leur rémunération. Nous, on s'adresse aux 5-10% des agriculteurs qui veulent reprendre la main sur leur ferme. et pour qui on développe les outils qui leur permettent de savoir à quel moment, à quel prix vendre leur récolte.
Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a une centaine, un peu plus, qui
l'utilisent. En fait, on a démarré effectivement dans le Gers avec plus d'une centaine de clients. Et à l'occasion du salon d'agriculture, c'est le premier déploiement national. Donc on a très bon retour depuis le lancement du salon.
Et résultat, vous allez recruter, je crois?
On va recruter effectivement sur toute la partie développement mobile, puisque la solution est 100% accessible sur smartphone. Et puis des agriculteurs, des ingénieurs agricoles ou agronomes pour échanger avec nos agriculteurs.
On reste ensemble, on continue à parler rémunération des agriculteurs aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous connaissez tous l'expression arrondir les fins de mois. Eh bien, c'est ce que fait Olavache avec des séjours à la ferme, mais dans la peau de l'agriculteur. A tout de suite. Fait.
Comment mieux rémunérer nos agriculteurs? C'est la question qui est posée dans La France Bouge aujourd'hui. On a vu qu'il existait plusieurs outils pour aider nos agriculteurs à vivre mieux. Et on va continuer à en parler avec vous, Raphaël Duchemin, toujours en direct du stand France Terre de Lait au Salon de l'Agriculture.
Vous avez toujours rêvé de guider, tiens, peut-être un troupeau ou de fabriquer vous-même votre fromage. Eh bien aujourd'hui, c'est possible. Bonjour Clara Beignac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Olavache. Et alors, je schématise, hein, mais vous organisez des séjours à la ferme qui vont permettre en fait un complément de revenus aux agriculteurs. Racontez-moi comment vous est venue à vous cette idée-là.
Alors, comment l'idée m'est venue? Moi, j'ai passé... Alors, je suis petite fille d'agriculteur, donc j'ai passé beaucoup de temps à la campagne étant jeune. Puis, j'ai eu la chance d'aller passer 3 semaines dans une ferme en tant que volontaire. Et ce moment d'immersion m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire que tout ce qu'on mangeait avait été produit sur la ferme, le fromage, le pain, les légumes, le cidre. Et en fait, j'ai été très frappée déjà par la qualité de l'alimentation, de la saveur, et aussi par la personnalité de ces paysans, qui étaient des gens vraiment très chouettes, avec qui, voilà, dont le quotidien est très différent. Et je trouvais que, voilà, c'était très impactant et j'ai eu envie de proposer donc des immersions à la ferme.
Oui, entre-temps, vous êtes partie aussi en Allemagne, hein, je crois, avec la découverte de ce qu'on appelle le woofing, c'est
exactement,
ça?
Exactement, je vois que vous êtes très bien renseignée, c'est vrai. J'ai vécu 4 ans à Berlin, donc c'est là où j'ai fait du woofing pour apprendre à parler allemand. Je me suis dit, autant aller sans
ferme. On va peut-être expliquer ce que c'est que le woofing.
Oui, le woofing, c'est du volontariat à la ferme. Donc l'idée, c'est qu'on va passer 2-3 semaines chez un producteur, qui c'est que un réseau de producteurs bio. Et en fait, on échange notre force de travail contre le gîte et le couvert.
Et du coup, vous êtes dit, mais je vais ramener cette idée-là en France et je vais le faire moi aussi dans mon pays.
Exactement. Alors le woofing, c'est vraiment un réseau international qui fonctionne très bien. Mais je me suis dit, tiens, mais si on a envie de passer juste une journée, un week-end ou 2-3 jours à la ferme, le woofing, c'est pas forcément adapté. Donc j'ai eu envie de proposer une solution qui permette de partir un week-end à la ferme, d'apprendre un savoir-faire comme faire du fromage de chèvre, balader un troupeau de brebis. Et ce serait un week-end qui assure un complément de revenu aux producteurs. Donc c'est pas leur revenu principal.
C'est un petit plus.
C'est un petit plus.
Alors justement, comment vous avez fait pour démarrer? Vous êtes allé voir les producteurs? Vous êtes allé les démarcher?
Exactement. Alors au début, je suis passée par mon réseau personnel.
Oui.
Et puis assez rapidement, j'ai pris ma petite voiture direction la Normandie. Et je suis allée rencontrer des éleveurs, des éleveuses. Et assez rapidement, l'idée a séduit. Donc j'ai pu agrandir mon réseau de producteurs.
Et il y a combien de producteurs aujourd'hui, justement, avec vous?
Alors aujourd'hui, on doit avoir 80 producteurs.
Donc je peux faire quoi? Je peux faire du cidre, par exemple?
C'est ça, vous pouvez partir en Normandie, apprendre à faire votre propre cidre, vous pouvez faire du cognac, vous pouvez faire du fromage de chèvre, apprendre à cueillir des plantes aromatiques, du champagne. On représente vraiment toute l'agriculture.
Et le prix que je vais payer? Eh bien, il va aller directement dans la poche de l'agriculteur. Il y en a une petite partie pour vous?
Il y en a une petite partie pour Olavache, parce qu'il faut bien qu'on vive et qu'on se développe. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter un complément de revenu aux producteurs.
Et qui est-ce qui fixe le prix, justement?
Alors, on l'a fixé avec les producteurs. Là, aujourd'hui, on fait évoluer nos produits. On va proposer des séjours un petit peu plus longs. On travaille toujours main dans la main avec les producteurs.
Que dit notre coach?
J'ai regardé près de chez moi ce qu'il y avait en Tarn-et-Garonne. J'ai vu que je pouvais, pour 160€ la journée, apprendre à faire du fromage de chèvre. Et donc je me disais, c'est relativement cher, mais peut-être tant mieux. Ça dépend quelle est la part de la valeur qui est reversée à l'agriculteur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus ?
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, il y a entre 70 et 80% de ce prix qui est reversé au producteur. Et dans la journée, donc vous, en fait, le producteur est mobilisé une journée avec vous. Donc, c'est forcément un temps assez long pour lui.
En solo, on vient seul ou c'est des groupes ?
Vous venez seul. Vous êtes vraiment en individuel avec le producteur. D'accord. Et aussi est prévu le midi un bon repas avec les produits de la ferme, bio et locaux. Donc c'est vraiment une expérience assez impactante.
C'est pour eux un complément de revenu, on l'a dit, mais c'est un complément de revenu qui peut atteindre combien ?
Alors, je peux vous donner l'exemple de Lucille l'an dernier.
Qu'est-ce qu'elle fait, Lucille ?
Alors, Lucille, elle fait elle aussi du fromage de chèvre.
Oui,
et son compagnon, Nicolas, est boulanger. Voilà, ils sont sur deux activités. Il se trouve qu'ils sont en Normandie, à Lisieux, pas très loin de Paris. Et il se trouve que l'an dernier, il y a eu de fortes intempéries en Normandie. Donc, il n'y avait plus beaucoup d'herbe. Donc, les chèvres ont produit moins de lait. Et l'an dernier, elle a eu un revenu de 4000 euros grâce à Olavache, ce qui représente un quart de son salaire annuel. Donc elle a particulièrement beaucoup accueilli. Nous, on recommande à nos producteurs en général.
Mais parce qu'il faut rappeler qu'il y a encore un tiers, vous me corrigez si je me trompe, hein, de mémoire, un tiers des agriculteurs qui tournent autour de 350-380 euros par mois, ce qui est extrêmement peu.
Hein. Exactement, c'est extrêmement peu. Donc pour Lucille, ça a vraiment été une aubaine. On s'est rencontrés cette année-là. Elle a eu envie d'accueillir beaucoup. Les immersions se sont très bien passées. Les retours des familles et des couples sont vraiment... Enfin, je vous encourage à aller les lire, ça parle vraiment d'eux-mêmes. Donc voilà, 4000 euros pour Lucie l'an dernier.
Benjamin, on peut aussi diversifier autrement sa production. Vous avez trouvé des idées, des
initiatives ? Oui, par exemple, entre deux cultures de blé, eh bien, on peut occuper les sols de sa parcelle en plantant des graminées, du seigle pour produire du biogaz. Et ça, selon Passion Céréal, le représentant de la filière, eh bien, ça permettrait de gagner en moyenne 35 000 euros par an.
Ouais, tout ce qui est méthanisation aussi, c'est aussi un complément de revenu. Hein. Vous confirmez tous les trois, c'est quelque chose qui fonctionne bien.
Ça fonctionne très bien, ça se développe fortement.
Oui.
Il faut qu'on simplifie les démarches parce que c'est très long aujourd'hui de construire son méthaniseur.
Aussi.
Exactement, ça coûte cher. Mais les dossiers et les administratifs sont très longs. Alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus rapide. Il me semble qu'il faut 7 ans en France pour monter son projet de méthanisation contre 2 à 3 en Allemagne.
On reste ensemble, on continue à parler rémunération des agriculteurs. Avec vous aussi, bien sûr, sur Europe 1, au Salon d'Agriculture.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, Twitter, le téléphone, le 3921, et aussi, bien sûr, les micros. Hein, ils peuvent circuler ici, au Salon de l'Agriculture. Si vous êtes avec nous, vous pouvez poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge sur Europe 1 et on vous retrouve Raphaël Duchemin, toujours en direct du Salon de l'Agriculture pour parler de la rémunération de nos agriculteurs.
Eh oui Marlène, effectivement, toujours avec notre coach Gilles Vanderpotten aujourd'hui, directeur de Reporters des Sports et de La France des Solutions. À mes côtés, comme chaque jour, Benjamin Lévesque et puis nos invités, Paolin Pascot, fondateur d'Agriconomie, première place de marché pour les agriculteurs. Edgar Chaput, cofondateur de Pair Farmer, une appli mobile qui aide les agriculteurs à définir leur stratégie de commercialisation et à vendre au bon prix au bon moment. Et puis Clara Beignac, fondatrice de La Vache, séjour à la ferme qui permet justement un complément de revenus aux agriculteurs. Benjamin, il y a aussi des solutions, j'ai envie de dire, un peu plus radicales. Hein, quand on veut mieux se rémunérer, eh ben, on se regroupe.
Oui, on rachète un supermarché, par exemple. C'est ce qu'ont fait une trentaine d'agriculteurs dans le Haut-Rhin. En fait, ils se sont regroupés pour acheter un ancien magasin Lidl qu'ils ont rebaptisé Cœur Paysan. Et ça marche, hein, puisque près de 1600 clients y viennent chaque année depuis 2016 pour y faire leurs courses, acheter leur viande, le fromage, les produits laitiers ou encore les fruits et légumes. Et ça vaut le coup, hein, puisque certains éleveurs, eh bien, ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 30%.
Paolin, parce qu'on a parlé de ce que vous faisiez sur cette place de marché, on n'a peut-être pas insisté, mais vous vendez aussi beaucoup d'outils. C'est une grosse partie de ce que vous faites dans le...
Alors on vend beaucoup de pièces détachées pour toutes les machines des agriculteurs. On fait à peu près 5 millions d'euros sur les pièces détachées. Et d'outils, de grosses machines, non.
Non,
pas de tracteurs.
Mais c'est quelque chose auquel vous pourriez penser, mutualiser justement les moyens et faire en sorte qu'un tracteur s'achète à plusieurs dans une région donnée pour peut-être ceux qui démarrent.
Alors vous avez déjà les CUMA qui sont là pour ça. Et puis vous avez aujourd'hui des entreprises comme Votre Machine qui permettent aux agriculteurs d'aller... louer plutôt que d'acheter le matériel.
Vous travaillez aussi, je crois, à lancer des financements pour les besoins des agriculteurs avec des tout petits crédits à 1%, c'est ça ?
Exactement, nous venons
une offre. 1%, c'est rien.
1% annuel. On vient de lancer une offre de financement pour aider nos agriculteurs à faire leurs appros. Parce que bonne partie des agriculteurs en France utilisent des crédits à court terme via leur coopérative, leur négoce ou via la banque pour acheter leurs approvisionnements. Et donc, on ne s'adressait pas à cette population. Mais depuis la semaine dernière, on a une offre de financement pour nos agriculteurs. Donc, on peut les financer de 5 000 euros à 500 000 euros par an.
Que dit notre coach ?
Je m'interroge, est-ce que vous ne faites pas finalement le travail des coopératives qui existent depuis des décennies, des siècles, et qui sont là pour aider les agriculteurs à mutualiser, à vendre mieux leur production, à faire des économies d'échelle en se regroupant ? Donc est-ce que vous remédiez à un manque du système coopératif ou est-ce que vous complétez la chose ?
On pense qu'on complète, on a besoin d'un mix avec des opérateurs physiques sur le terrain et des opérateurs comme nous en ligne. Ça apporte une meilleure transparence à tout le marché et puis ça fluidifie les échanges.
Benjamin, est-ce qu'on a des questions ou des remarques sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ?
Quelques réactions sur Twitter, à commencer par William qui nous dit bien pour mieux rémunérer les agriculteurs, il faudrait arrêter d'importer de la viande pourrie de Pologne pour commencer, je cite. Et puis nous avons Soldat Guerrier qui s'interroge, qu'en pensent nos experts de la loi alimentation vis-à-vis des agriculteurs ? Va-t-elle mieux les payer ou pas ?
Ouais, on a aussi Didier qui nous dit super, hein, le bon sens revient en force, c'est pas faux. Le bon sens paysan, c'est quelque chose qu'on nous a appris, qu'on nous a dit quand on était petit. On avait peut-être un peu perdu, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Edgar, Clara ?
Ben non, effectivement, on est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que pour bien se rémunérer, il faut acheter le moins cher possible et vendre le plus cher possible. C'est la logique des agriculteurs depuis le début. Tout en étant raisonnable. Et donc l'achat, on l'a vu, il y a des solutions qui sont proposées telles que l'économie. À la vente, on n'est pas un système magique qui va prédire l'évolution des cours. On dit simplement à l'agriculteur, fixez-vous un prix qui soit à la fois rémunérateur et atteignable et soyez capable de prendre la décision au moment venu.
Et les agriculteurs qui vous ont suivi dans cette démarche, les 150 dans le Gers, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont gagné beaucoup d'argent en adoptant finalement le système Performer ?
Ben beaucoup, effectivement, il y a des agriculteurs qui ont gagné 10, 20 ou 30 000 euros. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'agriculteur travaille dans les champs, il n'est pas uniquement devant son bureau à regarder les cours. Et des périodes très intenses en termes de travail, que ce soit pour les semis ou la récolte, les prix sont extrêmement volatiles. Et tout agriculteur a raté des opportunités à ce moment-là. Et donc de recevoir un SMS quand je suis dans ma moissonneuse-batteuse et pouvoir engager à ce moment-là, donc vendre ma récolte, grâce à un simple SMS, ça fait faire des économies importantes et ça garantit une rémunération.
Clara, combien de personnes aujourd'hui ont adhéré à les démarches au lavage ? Combien de gens sont venus sur le site et ont dit « Allez, moi je me lance et j'essaye d'aller fabriquer mon fromage ou de faire mon cidre ?»
Alors pour être honnête, je n'ai pas en tête le nombre d'utilisateurs, mais on a 300 couples et familles qui sont partis avec au lavage en un an et quelques mois. Donc on sent un certain enthousiasme. Et c'est vrai que sur Olavage, ce qui est important pour nous, je rebondis sur l'exemple du supermarché, ce qu'on veut vraiment faire, c'est reconnecter les consommateurs et les producteurs, qu'il n'y ait plus cette fracture ville-campagne ou fracture consommateur-producteur, qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Voilà, que les consommateurs comprennent ce qu'ils ont dans leurs assiettes.
Et effectivement, grâce à des solutions comme celles que vous proposez, c'est ce qui se passe et on en a bien besoin. Merci à tous les trois d'être venus nous parler rémunération des agriculteurs aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, ils collectionnaient les semences. Deux botanistes ont inventé Villemorin. Aujourd'hui, le Grain Tea a plus de 3000 variétés de légumes. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
13h41, vous écoutez La France bouge jusqu'à 14h. On retrouve Raphaël Duchemin en direct du Salon de l'Agriculture pour parler maintenant d'une entreprise qui va bien.
Oh, et cette entreprise, je suis sûre que vous la connaissez si vous avez, tiens, un petit bout de jardin, parce que c'est Villemorin. Bonjour Franck Berger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur de la branche semences potagères chez Limagrain, puisque désormais Villemorin appartient depuis 1965 à Limagrain. Mais c'est une très très vieille dame, hein. Je le disais tout à l'heure, 1793, et son histoire commence avec Louise de Villemorin et son mari, deux botanistes.
Tout à fait. Alors, même un tout petit peu avant, puisque cette histoire commence en 1743, voilà, avec la famille Andrieux. Et cette famille Andrieux, qui était, Andrieux était le botaniste du roi Louis XV. Il a épousé une marchande de graines sur le quai de la Mégisserie à Paris. Et leur fille a, elle, ensuite épousé un monsieur de Villemorin, qui était un grand botaniste, et ils ont ensemble développé cette activité, et en particulier, ça a été les premiers en 1778 à créer un catalogue de variétés de semences pour les utilisateurs.
Oui, alors ils étaient grainetiers, hein, c'était des collectionneurs, on peut le dire. Ils commencent la sélection à la fin du 19e. Comment vient l'idée, justement, de trier les graines?
Alors l'idée de sélectionner les semences, de manière générale, c'est une idée vieille comme l'humanité, puisque dès l'instant où des hommes se sont mis à cultiver à partir du néolithique, ils ont cherché à conserver dans leur récolte les graines, les plantes qui produisaient les meilleures récoltes, et donc en ont conservé les graines pour ensuite propager ces semences. Et au fur et à mesure du temps, en sélectionnant toujours davantage ces semences, eh bien on améliore tout simplement les variétés. Donc c'est une idée extrêmement ancienne, sauf que pendant longtemps, on l'a fait de manière extrêmement empirique, parce qu'on ne connaissait pas en fait quels étaient les mécanismes de transmission des caractères à l'intérieur des plantes.
Alors, l'entreprise, et ça on ne l'a pas dit au départ, elle est dans la région d'Angers. Elle a beaucoup bougé pour finalement se relocaliser en partie à Angers. C'est une grande région, et ça on ne le sait pas forcément, de production de semences chez nous.
Tout à fait. Alors donc l'entreprise Villemorin en fait était parisienne au départ. Pendant longtemps, elle était installée à Verrières-le-Buisson, dans le sud de la région parisienne. Et en 1960, début des années 70, elle a bougé dans la région angevine. Alors pourquoi cette région? Parce qu'en fait, effectivement, c'est une région qui traditionnellement était très propice à la culture de semences. Le climat angevin est connu pour sa douceur, on dit la douceur angevine. Eh bien, c'est un climat qui est favorable à la production, à l'activité de production de semences. Et donc, cette activité a tout naturellement trouvé un très bon lieu d'accueil dans cette région d'Angers, où l'entreprise Villemorin est aujourd'hui toujours présente.
Et alors, Villemorin, c'est resté Villemorin dans la famille jusque très tard, finalement. Et puis, elle a voulu vendre. C'est à ce moment-là que l'Imagrain arrive dans le jeu, si j'ose dire.
Voilà. Après, presque concomitamment, en fait, l'entreprise a été vendue en 1970 à un entrepreneur de la région d'Angers, qui l'a donc déménagé. Et ensuite, suite à certainement un certain nombre de difficultés économiques, cet entrepreneur a cédé son activité au groupe Imagrain, qui, lui, est un groupe agricole, coopératif, basé en Auvergne, et qui cherchait une diversification de ses activités, donc il l'a trouvé dans les semences potagères.
Que dit notre coach?
Tout près de votre fief d'Angers, j'ai visité à Tours un conservatoire de la tomate qui comprend plus de 700 espèces différentes. Et je voulais vous demander, à l'époque où on parle beaucoup de biodiversité, de diversité des espèces, comment vous œuvrez à cette diversité? Est-ce que vous proposez autant de variétés de tomates, ou est-ce que vous concentrez sur des tomates un peu standardisées? Comment vous composez?
Alors,
avec
ça, on en a justement avec nous ici au Salon de l'Agriculture. Vous en avez amené des tomates, hein.
J'ai amené des tomates d'une variété, là, cette fois-ci très moderne, d'une autre entreprise du groupe Limagrain qui s'appelle H&M Close. La variété s'appelle Adora et c'est une variété exceptionnellement gustative. Raphaël, je vous invite à le goûter quand vous aurez quelques minutes après votre émission. Alors, pour répondre à votre question, ce que vous avez visité, certainement, c'est un conservatoire, c'est-à-dire un endroit où on conserve des ressources génétiques, des variétés anciennes ou modernes. Ces variétés sont à leur tour en fait utilisées dans la création variétale. Alors, je vais très rapidement m'expliquer là-dessus. Je vais vous faire un parallèle que je pense que vous comprendrez, qui est le parallèle avec la musique. Dans la musique, il y a 7 notes, 12 demi-tons, tous les musiciens savent ça. Dans le support de l'hérédité, qui est l'ADN, le son, je pense que beaucoup d'auditeurs comprennent, il y a en fait 4 notes. Voilà. Et ces 4 notes se réarrangent en permanence sous forme de gènes. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons toutes ces ressources de variétés anciennes pour ensuite, en fonction de la demande des consommateurs et des producteurs, créer des variétés plus modernes. On réarrange en fait la génétique.
Vous réarrangez, vous redonnez vie aussi aux semences oubliées, hein, je crois. Ça, c'est important, garder ce patrimoine, finalement.
Alors, la conservation, effectivement, la conservation est extrêmement importante. La biodiversité doit être conservée, mais elle doit être aussi cultivée. Alors, dans notre entreprise, donc Villemorin, en fait, dans son activité à l'époque, aux alentours des années 70, il y avait en fait deux destinations, je dirais, des variétés.
Une destination. Oui, là, les activités ont grossi depuis.
Les activités ont grossi fortement.
Il y a trois sites changé Lyon, Valence, c'est voilà, ça, avec des activités différentes.
Plusieurs entreprises avec des activités différentes, mais spécifiquement sous le nom de Villemorin. L'entreprise qui est basée à Angers s'est spécialisée pour les producteurs professionnels, les maraîchers qui cultivent les légumes que nous pouvons acheter dans nos marchés ou dans nos supermarchés. Et puis, il y a une autre branche d'activité qui, elle, est liée et destinée plus à un usage amateur. C'est les petits sachets que je vous ai amenés ici, ceux que vous allez retrouver,
ceux qu'on met dans le jardin,
que vous mettez dans le jardin. Et effectivement, là, on va retrouver beaucoup de variétés plus anciennes.
3000 variétés, hein, je disais tout à l'heure, voilà. De légumes. Un chiffre d'affaires qui est en légère baisse. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi, tout bêtement, j'ai envie de dire, subi des aléas climatiques.
Alors, non, deux choses distinctes. Notre chiffre d'affaires sur la partie professionnelle, maraîcher, il est plutôt en hausse, il est plutôt en progression très régulière. Par contre, le marché du sachet de semences pour amateurs, lui, c'est un marché qui lui-même baisse petit à petit. Et c'est d'ailleurs un peu un paradoxe. On reproche souvent aux semenciers de ne pas respecter la biodiversité, de ne pas conserver les variétés anciennes. En fait, malheureusement, c'est surtout la demande de l'utilisateur qui fait qu'un certain nombre de variétés tombent en désuétude et ne sont plus cultivées.
C'est le groupe Limagrain et la société Villemorin. C'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h48. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous aimez probablement déboucher une bonne bouteille, mais aussi savoir qui produit et comment. Les grappes ont la solution pour vous connecter directement avec les viticulteurs. A tout de suite.
Au Salon de l'agriculture sur le stand France Terre de Lait, retrouver Raphaël Duchemin pour la suite et fin de La France Bouge. Et on finit toujours par une solution, Raphaël.
Évidemment. Comment rapprocher, tiens, les vignerons des consommateurs? Une entreprise a probablement trouvé la solution, Benjamin. Lesgrappes.com, c'est un site internet lancé en 2014.
Oui, c'est bien plus qu'un simple site où l'on achète du vin, ça beaucoup peuvent le faire. En fait, avec lesgrappes.com, vous avez vraiment le sentiment d'acheter en direct du vigneron. On choisit son vin en fonction des avis de la communauté et on peut aussi bien échanger par message avec le vigneron, lui demander des conseils. On passe commande et ça part directement du domaine de production jusqu'à chez soi dans un délai de 4 jours.
Bonjour Loïc Tanguy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez fondé les grappes il y a 4 ans maintenant. Aujourd'hui, combien est-ce que vous avez de vignerons qui passent par votre plateforme ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec 1000 vignerons récoltants français. Et il faut savoir que lorsqu'on a démarré, donc il y a 4 ans, on a démarré avec 20 vignerons.
Oui, c'est donc une très belle progression.
Aujourd'hui, si je me connecte sur le site, je peux trouver vraiment tous les vins de France ?
Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 30 000 vignerons récoltants en France et qu'aujourd'hui, donc on en a 1000. On n'a pas l'ambition d'avoir l'intégralité des vignerons récoltants français. En revanche, ce qu'on veut, c'est pouvoir représenter l'intégralité des appellations et c'est aujourd'hui le cas sur lesgrappes.com.
Et le but, c'est quoi ? C'est de rendre accessible justement le vin à tous ?
Alors, on s'est lancé avec une ambition il y a 4 ans. Notre ambition, c'était de rapprocher les vignerons des consommateurs. Et pour cela, l'objectif, c'était de lever les barrières à l'achat de vin en direct des producteurs. Donc, il y avait deux barrières identifiées, la barrière logistique et la barrière de paiement. Et l'autre idée qu'on a eue lorsqu'on s'est lancé, c'était également de réincarner l'expérience d'achat sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sites qui référençaient des milliers de références. Nous, on a voulu réincarner l'expérience en valorisant l'homme et le producteur qui se cache derrière la bouteille.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de plus que les autres ne font pas ?
Aujourd'hui, si vous allez sur la plupart des sites de vente de vin en ligne, ils se contentent d'afficher des références de bouteilles. Nous, notre point d'entrée, c'est vraiment le vigneron. C'est le vigneron sur lequel on a produit énormément de contenu, parce qu'aujourd'hui, on est un des plus gros fournisseurs de contenu en ligne. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir son vin en s'appuyant sur les avis de la communauté. Et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, de pouvoir également interagir avec le vigneron. Donc, il y a vraiment une logique.
On peut lui poser des questions, par exemple.
On peut tout à fait lui poser des questions. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ce contenu et de ses avis pour choisir son vin. Et
qu'est-ce qu'on lui demande, par exemple ? C'est quoi le top 3 des messages ?
Alors, les messages assez classiques, c'est effectivement les accords mets vins. Ça peut être quand est-ce qu'il faut ouvrir la bouteille, combien de temps avant, et quelle est la bonne période pour la boire, c'est-à-dire combien de temps il faut la garder en cave avant de l'ouvrir.
Que dit notre coach, Gilles ?
Sur la variété de vos productions ou sur les productions que vous avez envie, vous, de valoriser, est-ce qu'il y a une dimension, est-ce que le bio, le raisonné, les vins naturels, ça vous importe ? On aurait pu parler tout à l'heure de semences paysannes, on ne l'a pas fait, mais là, je vous pose la question, est-ce que ça vous importe, vous,
Alors, c'est forcément quelque chose qui nous importe. Les Grappes s'est lancé avec la vocation de promouvoir le circuit court. l'achat en direct producteur. Donc c'est évident que toute la démarche du bio, du nature, du vin nature est quelque chose d'important pour nous. Et d'autant plus que c'est quelque chose qui est fortement plébiscité par nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, parce qu'aujourd'hui on s'est aussi fortement développé auprès des professionnels de la restauration. D'accord. Qui sont à la recherche de vin bio ou de vin nature.
Qui confirme que le bio, il y a une demande de plus en plus forte dans tous les
secteurs. Il y a une croissance très forte évidemment du vin bio aujourd'hui, et c'est une tendance dans laquelle on s'inscrit avec grand plaisir.
Benjamin.
La suite, l'objectif c'est quoi? C'est d'étendre à l'international?
Alors, on a racheté, nous, par exemple, un acteur il y a quelques mois qui était un des leaders de l'œnotourisme en France. Donc là, on vient de fusionner les deux sites cette semaine. Donc déjà, première ambition sur 2019, c'est de devenir un acteur majeur de l'œnotourisme en France. Et oui, après avoir lancé une plateforme à destination des particuliers en 2018, d'avoir lancé une plateforme à destination des professionnels français, notre ambition, on ne va pas s'en cacher, c'est clairement d'aller amener nos vignerons récoltants français à l'export.
Est-ce qu'il y a des vignerons qui vous sollicitent et à qui vous dites « non, on ne prend pas votre vin » Est-ce que c'est arrivé?
Alors oui, clairement, la situation a changé depuis notre démarrage. À l'époque, on frappait vraiment à la porte des vignerons.
Il y a des critères de sélection.
Il y a clairement des critères de sélection. On travaille déjà qu'avec des vignerons récoltants. Et il faut que les vignerons soient validés par le comité de sélection, qui est le comité de sélection Les Grappes.
Benjamin, ou Gilles, une dernière question.
Oui, une question connexe. Est-ce que vous pensez qu'il faut craindre le rachat de nos vignobles aujourd'hui en France? Et est-ce que vous êtes prêt à privilégier ceux qui restent locaux et qui sont traçables quelque part, si j'ose dire?
Alors, le mouvement des rachats de vignobles français, on parle effectivement, ça se voit un peu à Bordeaux avec les rachats de vignobles par les Chinois. Je pense qu'aujourd'hui, le marché des vignerons français, en tout cas du vignoble français, est un marché qui est tellement atomisé. Il y en a plus de 30 000 vignerons récoltants aujourd'hui en France, qu'on a vraiment de la place aujourd'hui pour travailler avec tous ces vignerons récoltants qui n'ont qu'une envie, c'est de promouvoir leur vin et de promouvoir leurs différences et leurs produits.
Merci Loïc Tanguy d'être Merci. Venu nous parler des grappes. Merci à Gilles Vanderpotten qui était notre coach aujourd'hui.
Merci
on se
vous.
Dit à bientôt. Nous,
à très bientôt.
On se retrouve demain, ici toujours au Salon de l'Agriculture. Vous pouvez venir nous voir, on vous attend. Et nous parlerons, Marlène, de traçabilité de la viande, un vrai sujet.
Ah oui, c'est important. Et vous allez rester encore un petit peu avec nous pour le rappel de l'info dans un instant. Et puis, vous céderez la place à Olivier Delacroix. Il va venir vous rejoindre sur le stand à 15h tout à l'heure pour son émission Partageons nos expériences de vie. En l'occurrence, une émission autour des femmes agricultrices pour mieux comprendre leur quotidien. Émission en direct depuis le stand France Terre de Lait au Salon de l'Agriculture. Et dans un instant, Ondelat raconte avec Christophe Ondelat. Bonjour Christophe.
Bonjour Marlène.
Parlez-nous donc de cette histoire qui va capter notre attention jusqu'à 15h.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire tirée d'un livre à succès qui s'appelle Le test de Stéphane Alix, qui a enfermé 4 objets dans le cercueil de son père et qui va demander à 6 médiums de lui dire quels sont ses objets.
Une expérience qui a d'ailleurs renforcé ses convictions à ne pas manquer juste après les infos. 13h58, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous Raphaël Duchemin.
Et le FC Nantes a décidé de saisir la FIFA pour obtenir de Cardiff le paiement du transfert de l'attaquant argentin Emiliano Sala, suspendu par le club gallois. Après la disparition du joueur dans un accident d'avion, Cardiff avait décidé de ne pas honorer un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 du montant total du transfert. L'actualité, c'est aussi Air France KLM, conseil d'administration aujourd'hui après l'entrée surprise au capital de l'État hollandais qui vient de s'offrir une participation à hauteur de 12,68% dans la compagnie. Du coup, l'action plonge de 13% à la bourse. Une prise de participation que les Néerlandais ont fait sans prévenir Paris, qui estime que c'est une opération inamicale et surprenante. Bruno Le Maire, à l'instant, précise qu'il recevra son homologue néerlandais en toute fin de semaine. L'actualité, c'est aussi le début du deuxième sommet à Hanoï entre Donald Trump et son nouvel ami Kim Jong-un, 8 mois après leur rencontre historique de Singapour. Et puis, notez qu'il y a aussi du football ce soir, quart de finale de la Coupe de France. Rennes-Orléans, ce sera à 18h30 et Lyon-Caen, c'est à 21h.
C'était Raphaël Duchemin. Merci Raphaël. Les prochaines infos dans une heure.